France Bleu, RCFM. France Bleu.
RCFM, Saltimbanque.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h passé de 28 minutes, c'est Christina Louzi pour vous accompagner jusqu'à midi. Dans quelques minutes, nous serons en compagnie de Pierre Carli pour parler apiculture. Et puis nous nous rendrons du côté d'Ajaccio au restaurant Le Bistronome. On fera un petit point sur la carte et puis sur ce qu'il propose aujourd'hui à midi. Le miel de Corse est issu d'un terroir dont la biodiversité est aussi riche que protégée. La nature sauvage et préservée de notre île, ses variétés de plantes endémiques en font un produit à forte identité et au caractère varié. Aujourd'hui dans Saltimbanque, c'est du côté de patrimoine que nous allons à la rencontre d'un apiculteur passionné, attaché à nos méthodes traditionnelles et sous l'appellation d'origine protégée, miel de Corse, miel et digours, Siga Pierre Carli. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes apiculteur professionnel. Vous gérez un cheptel de 300 colonies pour produire annuellement entre 5 et 10 tonnes de miel AOP réparties dans 4 à 5 variétés sur les 6 existantes du label.
Tout à fait, c'est ça. 300 colonies que je déplace au gré des mielés pour pouvoir proposer différents miels de la gamme qui peuvent séduire tout type de palais.
Donc en fait, vous transhumez vos ruches à travers les saisons, donc du littoral, du patrimoine jusqu'aux vallées les plus montagneuses de l'intérieur de notre île. Cette transhumance, c'est justement pour offrir des miels aux saveurs diverses, du plus doux au plus corsé.
Tout à fait. J'aime bien dire aux gens qui viennent de l'extérieur que ce qui séduit dans l'île, dans notre petite île, c'est la diversité de ces biotopes. Et cette diversité des biotopes, elle se retrouve dans les miels, puisque le miel, c'est vraiment l'expression d'une flore à un moment donné. Donc, ça va être le littoral au printemps, à l'heure actuelle, qui est un printemps qui s'éternise un peu, avec des essences comme la bruyère blanche, le romarin, la lavande papillon, la faudelle, etc. Et puis, à la fin de la saison du printemps, on fait une récolte. Mm-hmm. Et puis, sur la zone sur laquelle je suis positionné, moi, au printemps, dans le désert de l'Agréate, par exemple, eh bien, l'été, c'est une période de sécheresse, il n'y a plus rien à butiner pour les abeilles. Et on va donc déplacer les ruches pour les emmener en production sur des zones comme la castanite, sur le châtaignier, qui est en fleur de juin à juillet. Et derrière, on peut encore déplacer les ruches sur d'autres miels, comme le miel à la montagne, pour faire le maquis d'été. Et terminer la saison sur l'arbousier.
Donc il y a vraiment du miel pour tous les goûts.
Exactement.
Alors votre situation à patrimoine dans le désert des Agréates, elle vous confère quand même pas mal d'atouts.
Oui, alors nous, on est caractérisé sur la côte ouest, près du littoral, par des printemps très précoces. Donc c'est un atout parce que l'hiver est très court. Après, ça nécessite quand même un suivi des colonies assez précis, parce que des printemps précoces, ça peut créer aussi des problèmes lorsque la colonie se développe un peu trop vite et que derrière il y a du froid, les ruches peuvent rentrer en carence de protéines qui peuvent causer des problèmes sanitaires. Mais globalement, avec un suivi assez fin, enfin beaucoup de présence auprès des ruches, on arrive à gérer tout ça. Et une saison qui est très longue, avec un printemps qui va commencer dès la fin février, et une saison qui va se terminer sur l'arbousier au mois de décembre, voire janvier. Ça fait une saison de production qui est longue.
Qui est longue. Justement, on vous appelle aussi le faiseur de rennes, on m'a dit. Chaque ruche a la sienne. Ça vous a jamais effleuré de développer votre propre production de rennes et pourquoi pas en exporter quelques spécimens?
Alors, vous croyez pas si bien dit. Hein, bon, moi, personnellement, je suis apiculteur, je fais du miel et j'ai un rythme qui me convient très bien, comme ça, en faisant mes propres rennes, pour gérer au mieux des aspects qualitatifs de mon cheptel. Mais c'est quand on fait des rennes, on en a souvent en plus, et ça arrive assez régulièrement d'en donner. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai que je cherche pas à développer trop cet aspect du métier, mais peut-être que plus tard, avec l'âge venant, les difficultés pour soulever les hausses qui vont venir de plus en plus, pourquoi pas, justement, mettre l'accent sur des aspects un peu plus techniques et développer une activité dans ce sens.
Donc justement, on rappelle quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on fait des rennes parce qu'une fois qu'elles sont vieillissantes, elles ne produisent plus autant.
Exactement. En fait, la renne, très succinctement, c'est le moteur de la ruche. En quelques chiffres, on va résumer tout ça. une ruche productive, c'est entre 60 et 90 000 individus. Une abeille, ça ne vit que 40 jours en production. Donc, c'est la reine qui enfante toutes les ouvrières. Et la reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, il y a un turnover de population qui est considérable dans la ruche. Et la qualité de la ruche, elle est liée à la qualité de la reine et à son rythme de ponte. Donc, une reine qui va être en perte de vitesse au bout d'un certain temps, elle va engendrer une colonie dont la population va diminuer et la ruche sera moins productive et plus sensible aux maladies, puisque avec moins de monde, elle aura moins de facilité pour se nourrir et se défendre contre les agressions.
Et justement, comment vous savez à quel moment il faut changer de reine ?
Bon, c'est assez simple. Hein. Dans une ruche, quand on visite une colonie, on mesure la force de la ruche au nombre de cadres de couvain, au nombre de cadres sur lesquels la reine a pondu. Mm-hmm. Donc, lorsque vous avez des ruches qui ont 7, 8, 9, 10 cadres de ponte, de cadres de couvain, ce sont des ruches qui sont fortes. Et puis, si à côté, dans un rucher, vous avez quelques ruches qui sont sur 2, 3, 4, 5 cadres de couvain, s'il n'y a pas d'autres facteurs que le rythme de ponte de la reine, eh bien, c'est que la reine est en perte de vitesse, en fin de vie, et il faut la changer. On a la cette chance de pouvoir changer le moteur de la ruche.
C'est super. Alors, le miel de Corse a été reconnu par une AOP depuis 1998. Hein, vous avez d'ailleurs œuvré pour ça. Ils séduisent aussi bien, on va dire, une clientèle locale que touristique, hein, puisque le miel de Corse aujourd'hui est très très bien positionné sur les meilleures tables à l'échelle internationale. Parlez-nous un petit peu de cette AOP.
Alors, l'AOP, c'est quelque chose de considérable. Donc, tous les produits labellisés, bien sûr, ce sont des produits qui sont importants dans notre île, puisque nous savons très bien que nous avons des handicaps qui sont liés à la petite taille et aussi à l'éloignement. Donc ce sont des produits à haute valeur ajoutée, entre guillemets, qui nous permettent d'être concurrentiels sur les marchés extérieurs à l'île. Donc la démarche de labellisation des produits agricoles, je pense que c'est une démarche dont on ne peut pas se passer. Concernant le miel plus précisément, l'AOP, ça a été la possibilité de clarifier un marché, de faire en sorte que les consommateurs puissent se retrouver à travers l'ensemble des miels dits corses, avec une gamme de produits très différents, donc qui nécessitait vraiment une explication et pouvoir dire à chacun, voilà, tel miel, c'est un miel de printemps, il a tel goût, celui-ci, c'est un miel d'automne, il est beaucoup plus amer. Donc, la clarification des marchés était très importante.
Il y a 6 variétés hein, dans le label.
Tout à fait, tout à fait. Et au-delà de tout ça, bien sûr, la labellisation, c'est aussi le fait de dire aux consommateurs, voilà, nous sommes regroupés derrière un cahier de charges. Ce cahier de charges, il encadre nos pratiques. Et l'ensemble des pratiques que nous avons choisi de mettre en œuvre, ce sont celles qui vous garantissent la qualité de notre produit. Donc, c'est encore une fois, c'est pas un contrôle qui nous a été imposé, mais c'est un contrôle que nous avons mis en place pour garantir aux consommateurs la qualité du produit.
Donc, vous leur garantissez l'origine du miel, la qualité, et comment vous certifiez aussi l'origine et l'origine géographique, je dirais, et florale du miel par rapport à cette AOP ?
Ben, c'est là où je voulais en venir. Nous avons cette chance d'avoir des outils particuliers qui nous permettent de dire aux consommateurs, regardez, on ne peut pas tricher. Alors, pour entrer dans le détail, nous avons défini des spectres polyphoniques. En quelque sorte, c'est l'ADN de chaque miel, où on va observer au microscope chaque goutte de miel, et nous avons défini des proportions de grains de pollen que l'on va retrouver pour chaque miel. Et si ces proportions se situent dans des seuils qui ne correspondent pas à ceux qui ont été définis, eh bien, cela met en avant un problème. Par exemple, les pollens de plantes endémiques doivent se retrouver dans tous les miels dans certaines proportions. Et dans le cas contraire, si quelqu'un a s'amusé à mélanger du miel qui aurait une provenance extérieure, eh bien, des proportions de pollen, de grains de pollen d'origine exogène non conformes, et ça fait des produits, et nous avons pu mettre en évidence une fraude.
D'accord. Alors, on sait que les abeilles sont témoins un petit peu de tous ces dérèglements de l'environnement, et on sait que combien l'apiculture en fait les frais. Bon, alors, vous, au milieu des vignobles de patrimoine, vos ruches, elles craignent pas grand-chose, on va dire, hein, avec tous les vignerons qui sont en agriculture biologique ou du moins en agriculture raisonnée. Mais les équilibres naturels qui étaient favorables aux abeilles sont quand même menacés. Je pense notamment aux espèces invasives ou aux changements climatiques.
Ah oui, ben, ça fait suffisamment souvent la chronique. L'abeille, c'est un animal qui est en danger. Alors, il a survécu des millions d'années dans des écosystèmes équilibrés, dans lesquels elle a su évoluer, se mouvoir et persévérer. Et c'est vrai qu'en un siècle, ces équilibres sont bouleversés. Alors, bien sûr, moi, il y a des problématiques qui me tiennent à cœur, comme l'interdiction d'importation d'abeilles qui est toujours de mise, les soucis que nous avons avec les importations de végétaux qui sont porteurs de menaces connues, comme Xylema, Simite, etc. Et puis, avec la multiplication des échanges internationaux, on sait très bien qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Donc, les menaces qui sont connues, ce sont celles auxquelles nous avons été confrontés. Puis, de toute façon, dans 10 ans, on parlera certainement d'autres problèmes, bactéries, parasites, etc. Donc, c'est vrai qu'on aime bien insister sur le fait que la Corse, c'est une île, qu'elle a des frontières naturelles. Et ça a été souvent un handicap, hein. Mais en l'occurrence, ça peut être un atout, et à nous de faire en sorte que de nous prémunir et de faire en sorte que nos frontières naturelles soient renforcées par des dispositions réglementaires. Par exemple, l'édition de listes de végétaux à interdire l'importation toujours plus grande.
Votre production, elle s'est déjà retrouvée impactée de ces attaques, comme vous direz, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est considérable.
Vous avez diminué par deux, hein, je crois.
Alors, pour diverses raisons, et certaines années, on a eu des volumes de production qui ont été diminués par deux, mais le plus bel exemple, peut-être pas suffisamment pour les apiculteurs, mais c'est le miel de châtaignier. C'était une manne considérable dans la production. Aspect non négligeable également, c'était aussi les châtaigniers, ils permettaient de favoriser le développement des essaims que nous faisons chaque année. Donc, sur le châtaignier, notre production a été produite diminuée de deux tiers, hein. Moi, je me rappelle avoir monté 150 ruches en Castagnette sur plusieurs 3 tonnes de miel. Et puis maintenant, l'année dernière, avec en montant 200 ruches, donc plus de ruches, j'ai fait même pas une tonne de miel. Voilà. Donc, ça se traduit par une diminution du chiffre d'affaires pour moi, et puis aussi pour mes partenaires commerçants qui ont moins de châtaignes à vendre.
Bien sûr. Donc là, on disait, vous produisez à peu près 5 tonnes de miel AOC par an.
Alors oui, moi, c'est sur une quinzaine d'années, j'ai dû produire en moyenne à peu près 7 tonnes de miel.
Et donc, vous écoulez principalement sur l'île, hein ?
Oui, alors, les ventes se font sur l'île à 80% et à 80% sur la saison estivale, ce qui, en quelque sorte, sont comme des exportations déguisées, puisque nous vendons à des touristes qui les ramènent chez lui. Et c'est vrai que si nous arrivions à maintenir nos volumes et à les développer un petit peu, eh bien, on pourrait s'attaquer de façon plus cohérente au marché extérieur, sur lesquels on a beaucoup de demandes.
Ah oui, oui c'est bien pour ça que je vous pose la question.
Que l'on ne satisfait pas toujours.
Donc en fait, c'est aussi un petit peu un objectif pour l'AOC, c'est-à-dire de réussir à fédérer et réussir à exporter sur les marchés extérieurs.
Tout à fait. Vous savez, bon, moi, je ne vais pas trop parler de ce que j'ai fait, mais...
On sait que vous êtes...
Nous avons un produit dans l'AOP, le miel de Corse, c'est un produit d'une très grande qualité. Voilà, j'ai du mal à le dire, mais on nous l'a suffisamment dit, il est suffisamment reconnu par les apiculteurs du continent. Alors, c'est pas...
C'est pas vous qui le dites, hein, je veux dire, il est très apprécié, voilà. Le miel de Corse, on le sait. Hein.
Voilà, c'est pas le mérite de l'apiculteur de faire un très bon miel de Corse, parce que c'est ce que nous offre notre île, la diversité de sa flore et sa richesse qui nous permet de faire des miels extraordinaires. Donc, ce produit peut très facilement être exporté. Donc, il y a un réel enjeu. Moi, personnellement, si je m'implique dans le conseil d'administration de la Russie, c'est parce que je raisonne en termes de développement de filière. J'ai la chance de faire un métier qui me passionne, qui me donne une qualité de vie qui me ravit. Et lorsqu'un jeune veut s'installer dans un village, même à proximité de chez moi, eh bien, je ne le vois pas comme un concurrent. Je vois quelqu'un qui peut avoir la même vie que la mienne et je trouve ça intéressant. Donc oui, nous avons une filière qui offre des possibilités intéressantes d'insertion professionnelle, de dynamisation de l'intérieur et du rural. Bien sûr, il faut que ça soit fait comme il faut, avec une grande technicité. Et la technicité et une bonne formation des postulants à tous les aspects sanitaires avant tout, et bien sûr les aspects gestion de cheptel, multiplication de cheptel, élevage de rennes, qui ne sont pas du tout négligeables parce qu'ils ont un impact considérable sur les aspects qualitatifs des exploitations.
Merci beaucoup hein, Pierre Carli pour votre interview ce matin, et puis continuez à nous faire voyager à travers notre île avec toute votre gamme variétale du miel de Corse. À très bientôt.
Merci beaucoup.
À Belgique. Jacques Goldman, elle attend sur RCFM.
RCFM, Saltimbok, l'œil du chef.
Il est 11h passé de 46 minutes. Nous sommes en contact avec le restaurant Le Bistronome à Ajaccio, une brasserie aussi chaleureuse que haut de gamme que j'ai eu la chance de découvrir. C'est un véritable havre de bonheur. Vous aimerez passer du temps entre amis et déguster une délicieuse cuisine moderne et faite maison. C'est le patron de l'établissement qui est avec nous aujourd'hui, Pierre Culigi. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Alors vous avez ouvert le Bistronome il y a 4 ans maintenant ?
Il y a 3 ans. On attaque la 4e année.
Ah voilà. Alors, outre le fait que vous êtes très apprécié dans la région ajaccienne, votre réputation c'est surtout faite sur la qualité de vos produits et de vos prestations, préparations soignées et modernes. Parlez-nous un petit peu de la philosophie et du concept Bistronome.
Eh ben, le bistronome, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu de la bistronomie. Nous, on a une petite carte qu'on change assez régulièrement, si vous voulez, tous les 4 mois à peu près, où on a une dizaine de plats mélangés entre des entrées et des plats, où on ne travaille vraiment que du frais. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, aujourd'hui, sur Ajaccio, on est les seuls à travailler la carcasse de viande. On fait nos découpes nous-mêmes de cette viande directement au restaurant. On ne reçoit pas de la viande déjà préparée. Toutes les découpes de la viande sont faites directement dans l'établissement, par exemple. Voilà. Après, tout ce qui est fabrication de nos tapas, parce qu'on fait aussi du tapas le soir, mais que ça soit restauration pure le midi, tout est vraiment fabriqué sur place. Voilà. Il n'y a rien qui est acheté déjà fabriqué.
Donc vous changez votre carte, on le disait, au fil des saisons pour toujours mettre en valeur les produits frais et les produits de saison. Qu'est-ce qu'on y trouve en ce moment ?
Alors en ce moment, on va changer la carte la semaine prochaine, par exemple. La nouvelle carte.
Je vais avoir un scoop alors.
Voilà, par exemple, on a mis en place des cailles farcies à la brousse qui sont entièrement décortiquées. C'est pareil, hein. On va faire des petites cailles de 400-500 grammes qu'on décortique entier à l'intérieur, qu'on reconstitue et on remet. On va faire ça avec, pour être un petit peu local, je dirais, un petit peu de broche et de pancette à l'intérieur. Et on sert ça avec une poulante frite, déjà avec un petit fond de sauce maison, voilà.
D'accord.
Ça va être un des plats de la nouvelle carte, voilà.
Vous pouvez nous en dire 2 ou 3 autres, hein, pour nous donner envie. Hein.
On va faire un petit carpaccio de poulpe aussi, qui va être à la nouvelle carte. Et on va faire une nouvelle pâte de la mer. Des moules de Diane, hein, parce qu'on essaye aussi de travailler pas mal de produits... de chez nous, tant qu'à faire, hein, si on peut le faire. Hein. Donc, petite tomate cerise, moule de Diane, petite gambasse, déjà décortiquée. Et voilà, ça fait partie des nouveaux plats qu'on aura sur la nouvelle carte qui va démarrer d'ici une petite semaine.
Voilà, vous le savez, hein, je suis très sucrée, très dessert. Et justement, au temps du dessert au bistronome, la gourmandise, elle est vraiment à son comble, parce que les desserts sont vraiment aussi originaux que savoureux. Présentez-nous un petit peu la nouvelle carte des desserts, parce que je ne suis plus venue là. Donc,
C'est vraiment la seule chose que je ne peux pas vous dire, parce que vous savez que j'ai une pâtissière.
Eh oui.
Et que c'est elle qui a carte blanche pour les desserts.
Oui.
Et aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce qu'on va avoir en dessert à la nouvelle carte. En fait, je vais le découvrir. Je vais le découvrir en même temps que vous.
Bon, voilà. Pas de scoop sur les desserts, alors.
Voilà, c'est notre fonctionnement, si vous voulez, sur les desserts. On a la chance d'avoir une pâtissière ajaxienne, jeune ajaxienne. Et du coup...
Qui fait des desserts absolument somptueux.
Voilà, hein, là, aujourd'hui, voilà, on a notre coulant mi-cuitonka qui est une des références de nos desserts.
Vous rappelez même les desserts que je prends, vous m'impressionnez. Hein.
Ouais. Je connais un peu mes clients quand même. Comment si je ne les connais pas, c'est mon travail, ça, quand même. Hein. D'accord. Donc voilà, notre mi-cuit, vous l'avez goûté, vous savez.
J'adore.
Ça fait partie d'un dessert qui aujourd'hui est un des desserts qui marche le mieux. Après, bon, on a notre tarte au citron qui est déstructurée, qui est servie dans une verrine. Ça, aujourd'hui, ça commence à être un petit peu du classique. Mais après ça, on a un très beau café gourmand qui marche aussi très bien. Voilà, on a plein de nouveaux desserts qui vont arriver, mais je vous dis, malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que même moi, je ne sais pas.
Voilà. Bon, alors, vous allez nous dire ce que vous avez préparé à midi. Allez.
Alors, à midi, aujourd'hui, on a fait un tartare de veau avec des petites pommes de terre rates. Voilà, petite salade, petite pomme de terre rate. Aujourd'hui, c'est tartare de veau au couteau qu'on
découpé a fait sur place.
Voilà, découpé sur place. Hein. Pas la viande n'est pas arrivée déjà préparée. On fait vraiment tout sur place. Hein. Donc, ce tartare, ça sera le plat du jour du midi. Voilà.
Et un dessert, non ?
Dessert du jour, soupe de fraises, boule framboise maison, parce que aujourd'hui on fabrique nous-mêmes nos glaces. Donc, elle a fait une glace à la framboise, donc on a fait soupe de fraises et glace framboise maison mélangée.
Donc, on rappelle, Pierre, que vous êtes ouvert tous les jours, hein, de 7h à 2h du matin. Vous ne dormez pas beaucoup. Avec des soirées musicales, live et tapas qui font un tabac, hein, du jeudi au samedi.
Voilà.
Il vaut mieux réserver. Hein.
Il vaut mieux. La réservation est conseillée pour le moment, tant que ça dure. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de monde jeudi, vendredi et samedi soir. Donc, on conseille vraiment aux gens qui veulent venir
de réserver. Et puis sur le futur très proche, puisque c'est là dans le week-end qui arrive, on a repris un établissement du centre-ville pour faire un vrai cabaret musical pour notre clientèle qui en demande de quelque chose après 2 heures, puisqu'on a une clientèle quand même le soir qui a entre 30 et 50 ans. Donc c'est une clientèle qui recherche des endroits, je dirais, où il va y avoir des gens de leur génération, quoi, voilà, hein, de ne pas se retrouver avec des beaucoup plus jeunes que ça. Donc là, à partir de ce week-end, nous aurons un nouvel établissement qui est le privilège en centre-ville, et où vous allez pouvoir venir écouter du live, parce qu'on fera que du live de minuit à 5h du matin.
Ah ben voilà, une bonne info pour nos auditeurs.
Voilà. Voilà.
Donc pour réserver, Pierre, on le rappelle, 04 95 21 43 38.
Oui, c'est
le bistronome, 10 boulevard Lantivier, Ajaccio. Merci beaucoup, Pierre. Je vais vous laisser. Vous allez faire votre service.
Merci à vous de m'avoir appelé.
Ah ben, je vous en prie. Bon, un big up à Damien pour cette belle découverte. Une jolie adresse contemporaine, lumineuse, avec sa terrasse offrant une vue panoramique sur le bleu azur du golfe d'Ajaccio. La cuisine n'en a que plus de couleurs. Pensez au gré du marché. Elle mêle sans complexe, bons produits et créativité. C'est le bistronome Ajaccio.
Merci beaucoup.
France Bleu RCFM.